On va retrouver notre rendez-vous hebdomadaire avec le géopolitologue Daniel Haber. Et aujourd'hui, il va être question de l'avenir du gouvernement israélien suite à la visite d'Itamar Ben-Gvir sur le mont du Temple.
Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Asselet, bonjour chers auditeurs.
Ravi de vous retrouver dans le cadre de nos conversations. Et aujourd'hui avec vous Daniel, on va parler d'un sujet qui a fait couler quand même beaucoup d'encre, surtout dans les médias israéliens. C'est le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui est allé passer un petit quart d'heure sur le mont du Temple mardi dernier. Et tout ça, ça a entraîné un certain nombre de réactions internationales. Alors Daniel, comme on en a parlé la dernière fois avec vous dans nos conversations, on le disait, ce nouveau gouvernement israélien a des positions qui sont assez marquées sur certains points et ça pourrait avoir des conséquences en termes de politique extérieure. Donc justement, quel est votre avis sur cette visite de Ben-Gvir sur le mont du Temple?
Oui, donc vous avez vu qu'on n'a pas attendu longtemps pour voir qu'il y a des changements, il y a des affirmations. Écoutez, le gouvernement israélien a dû beaucoup discuter sur le point de savoir si c'était opportun de laisser Ben-Gvir passer un tout petit quart d'heure à 7h du matin sans convoquer la presse. Donc on était quand même dans une provocation de très très bas niveau. Et d'ailleurs, au fond, il n'y a pas eu d'émeute populaire, il y a eu des condamnations et c'est un petit peu ces condamnations qu'on va regarder. Mais avant, il faut dire une chose, c'est que un gouvernement a le droit de ne pas obtempérer aux menaces d'un groupe terroriste comme le Hamas, qui a dit si vous y allez, vous allez voir. Donc ils ont le gouvernement d'un État fort comme Israël, qui est légitime et qui est souverain, n'a pas à se plier aux menaces d'un groupe terroriste. Et puis affirmer le droit des Juifs à accéder sur ce que les Arabes appellent le Haram el-Sharif et qu'on appelle nous le mont du Temple, ça fait partie du statu quo. Il n'a pas brisé le statu quo, il l'a respecté. Tout juif peut y aller. Moi, j'y suis allé plusieurs fois. C'est très intéressant d'y aller. C'est régulé par les autorités religieuses jordaniennes et par la police israélienne. Et donc, il n'a pas mis de désordre sur le mont du Temple. Et donc, ce qui est intéressant, c'est pas tellement les réactions arabes qui sont naturelles, et je vais expliquer pourquoi elles sont naturelles, mais ces réactions occidentales. On a vu quand même les Américains prendre le leadership des condamnations et les Européens aussi y aller du leur. Si vous voulez, la politique palestinienne depuis 2000 et 2007, c'est-à-dire la fin des négociations pour un État, c'est de se dire que bon, on n'aura pas notre État par la négociation, puisque les Israéliens ont compris que l'État qu'on réclame, c'est pas un État à côté d'Israël, mais c'est un État à la place d'Israël. Et comme on a compris aussi que les Israéliens ne sont pas des gens suicidaires, on n'aura pas cet État qui nous servira de base pour jeter les Juifs à la mer. Donc, il faut faire autrement. Et donc, toute la politique palestinienne, c'est de délégitimer Israël. C'est ça dont ils s'occupent. Ils le font aux Nations Unies. Ils le font par un certain nombre d'ONG. Tout ça, on en a parlé très souvent. Et donc, ce cœur de Jérusalem, qui est le mont du Temple, c'est le symbole même du droit d'Israël à exister, parce que finalement le sionisme, c'est le retour à Jérusalem, c'est le retour à Sion, et Jérusalem, c'est pas Jérusalem Ouest, hein, c'est la vieille ville de Jérusalem, là où il y avait le Temple, celui de Salomon, celui d'Hérode, celui qui était le cœur de la vie juive. Et donc cette légitimité d'Israël sur cet endroit-là, c'est le droit même d'Israël à exister. Et donc c'est autour de ce droit d'Israël à exister que tout ça se joue. Et donc ça nous laisse très très perplexes quand on voit les condamnations occidentales sur ce point-là. Israël n'a pas violé le statu quo, il a juste démontré son droit à exister et au fond la légitimité du sionisme. Voir les Américains, qui sont supposés être les alliés des Israéliens, et voir les Européens condamnés, c'est très choquant.
Mais justement, Daniel, en quoi est-ce que c'est choquant ?
C'est choquant parce que quand on relit l'histoire de la naissance d'Israël, et en particulier au moment du vote des Nations Unies et ensuite de la guerre d'indépendance, on s'aperçoit que dès le début de l'existence de l'État d'Israël, les Américains, les Européens ont eu ce type d'hésitation Vous savez que Israël a été reconnu par les États-Unis, par les États-Unis, oui, grâce à Truman, mais contre l'avis du département d'État. Donc on voit que depuis le début, les Occidentaux ont un sentiment peut-être de culpabilité d'avoir été ceux qui ont créé ou aidé à créer cet État d'Israël. Et cette culpabilité, ils le font payer à Israël en l'accusant à tort de beaucoup de maux, MAUX. Et en faisant cela, les Occidentaux affaiblissent la position d'Israël, renforcent cette politique de délégitimation et de démonisation que jouent les Palestiniens, renforcent donc la politique palestinienne et donc vont faire durer le conflit. C'est d'ailleurs des explications que donne souvent Israël en soutenant cette politique palestinienne de délégitimation d'Israël. Vous poursuivez vous aggravez le conflit pendant que les États arabes signent les accords d'Abraham malgré la non-résolution du problème palestinien. Vous continuez à le mettre au centre du débat. Vous affaiblissez Israël et en fait, et c'est ça qui est encore pire, vous affaiblissez le camp occidental dans son ensemble. Donc c'est une politique quand même très étrange, elle est choquante, il faut trouver une explication.
Et justement, avec ça, Daniel, comment voyez-vous l'avenir de la politique extérieure de ce nouveau gouvernement israélien?
Eh bien, il va justement dépendre de cette attitude occidentale que nous avons du mal à comprendre. Alors, j'ai essayé de la comprendre et pour essayer de faire comprendre cette position occidentale qui est, au fond, contraire à son propre intérêt, c'est ça que je suis en train de dire, je voudrais faire appel à un parallèle avec la Chine. Ça va peut-être vous surprendre, mais je vois vis-à-vis de la Chine, les États-Unis mener une guerre qui est à la fois une guerre commerciale, une guerre technologique, mais aussi une guerre de civilisation. On accuse la Chine des mêmes maux dont on accuse Israël, tout ce que vous faites, c'est pas démocratique, c'est contraire aux droits de l'homme, c'est contraire au droit international, ce qui en général n'est pas vrai. C'est pas forcément contraire au droit international et de même qu'accuser Israël de violer le droit international en général, c'est faux. Israël respecte le droit international, c'est juste une vision assez différente de ce droit international. Donc, on voit les Occidentaux mener une guerre très dure contre la Chine, surtout les Américains, mais pas seulement les Américains, contre la Chine au nom des valeurs occidentales. Et donc, du coup, menant cette guerre de civilisation vis-à-vis de la Chine, les Occidentaux qui traînent ce sentiment de culpabilité permanent, très chrétien d'ailleurs, très judéo-chrétien, ce sentiment de culpabilité, se sentent obligés d'avoir vis-à-vis d'Israël des positions qui sont en parallèle de celles de la Chine. Puisqu'on accuse Israël de violer le droit international, on est très vigilant à tout ce que fait Israël et on l'accuse à tort des mêmes maux, alors que la situation n'est pas la même, alors que le dossier n'est pas la même. Tout ça pour au fond se faire pardonner par le monde, par l'ensemble des nations du monde d'avoir participé à la création d'Israël. Donc vous voyez que on est au cœur du vrai débat concernant la question palestinienne. Ça reste quand même le droit d'Israël à exister. Et donc Israël a depuis longtemps bien compris que il n'était pas question de céder et que Israël est droit dans ses bottes pour continuer à exister. Donc fait ce qu'elle a à faire et qu'elle doit continuer à persuader l'Occident de prendre des voies un petit peu nouvelles. Alors c'est d'autant plus choquant et intriguant cette position occidentale que nous sommes, et ça on en a aussi beaucoup parlé en 2022 et on va encore beaucoup en parler en 2023, dans un contexte mondial qui est quand même tout à fait nouveau, qui est d'une part la confrontation entre les États-Unis et la Chine, mais qui s'est étendue à la Russie, puisqu'il y a cette guerre en Ukraine et ce partenariat de fait entre la Russie et la Chine, qui fait que maintenant on est en train de constituer deux camps, un camp des démocraties, on peut même pas dire un camp occidental, mais un camp des démocraties, contre le camp des pays autoritaires. Et alors, c'est très étrange dans ce contexte de voir l'Occident attaquer un de ses propres alliés, Israël, C'est un pays parfaitement démocratique, qui respecte le droit international. Et donc, en attaquant Israël, quelles que soient les raisons, hein, le camp occidental s'affaiblit par rapport à la Russie et à la Chine. Croyez bien que les Chinois et les Russes sont extrêmement attentifs à toutes ces condamnations d'Israël. Et vous savez, et Poutine et Xi Jinping parlent à Israël. Et donc, ils ont compris qu'ici, il y avait une faille dans le camp occidental, que pour la Chine et pour la Russie, on pouvait peut-être détacher Israël du camp occidental. Ils ont cet espoir de faire en sorte qu'Israël n'obéisse pas au doigt et à l'œil aux États-Unis, ce qui vient de se passer d'ailleurs, hein, sur le mont du Temple, puisque les Américains avaient dit n'y allez pas, et en obligeant finalement à Israël à se demander qui sont ses vrais amis.
Et on aura bien évidemment l'occasion, Daniel, d'en reparler avec vous lors de nos prochaines conversations. Merci beaucoup, Daniel Haber, pour vos éclairages et comme chaque fois, très bonne semaine à vous et à la semaine prochaine.